Alors, nous étudions le célèbre Sermon sur la montagne, ce manifeste du roi qui expose les valeurs du royaume de Jésus et qui décrit le comportement de ses citoyens. Alors, nous arrivons à Matthieu chapitre 6 et nous allons faire la lecture à partir du verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusque-là, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a beaucoup critiqué les religieux et la religiosité. Et quelqu'un qui l'écoute, surtout de notre époque, pourrait dire, dis donc, Jésus est encore plus anticlérical que le français moyen, je l'aime bien, vas-y Jésus, abat la religion. Mais Jésus n'a pas fini de renverser les valeurs typiques du monde et le fonctionnement typique de ses citoyens. Dans notre texte, il aborde notre relation avec les biens matériels. L'argent, mais pas que l'argent. Ce dont Jésus parle ici, c'est tout ce qu'on peut voir dans un kiosque de magazine, hein, quand vous prenez le train ou l'avion. Un kiosque de magazine, c'est tout ce qui nous passionne. C'est nos trésors, finalement. La nourriture, la santé, la beauté, mode, voiture, musculation, sport, gadgets, toutes ces choses. Et tout ça, on va appeler le matérialisme ce matin. C'est cette vision du monde qui dit que mon bien-être, ma sécurité, mon avenir est dans les choses que je vois, dans les choses que je possède, dans les choses de cette vie. Et dans notre texte, selon Jésus, ça va être une grande différence entre le croyant et le non-croyant, que Jésus appelle païen ici, parce qu'il parle à un public juif, hein, juif et païen. Une grande différence entre le croyant et le non-croyant, selon verset 32, c'est que les païens recherchent ces choses, mais vous cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors cela ne veut pas dire que ses disciples n'ont pas besoin de nourriture, n'ont pas besoin de vêtements, n'ont pas besoin d'argent. Mais la différence, c'est que pour le non-croyant, toute sa vision est limitée à ces choses. Il recherche uniquement ces choses-là, alors que le chrétien recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sachant qu'il y a besoin de vêtements, de nourriture, des choses matérielles. Or, le matérialisme est la croyance dominante de notre époque en Occident. Donc autant on aime bien voir Jésus casser les religieux, autant c'est moins confortable qu'il nous parle du matérialisme. Et quelqu'un pourrait dire, moi je ne suis pas d'accord avec toi, Jésus, le matérialisme aujourd'hui marche très bien. Entre la technologie, la médecine, la science, l'argent, nous n'avons plus besoin d'une explication divine. Nous n'avons plus besoin d'une espérance céleste illusoire. Nous avons aujourd'hui, nous avons une solution concrète, scientifique, médicale, financière, pour tous nos problèmes. Mais le serment sur la montagne nous offre une réponse pertinente à cela. Et Jésus rappelle ici qu'un effet pervers du matérialisme, c'est l'inquiétude et l'anxiété. Et après avoir parlé des trésors, des richesses, il va surtout consacrer son application à l'inquiétude. Et notre époque confirme finalement les propos de Jésus. Plus notre société est devenue matérialiste, plus elle est devenue inquiète, anxieuse. Le poète Oden, célèbre poète anglo-saxon, a baptisé notre ère comme étant l'âge de l'anxiété. Et beaucoup ont repris cette phrase, ce titre pour des livres et des articles, l'âge de l'anxiété. Et c'est vrai, nous sommes les pros de l'anxiété et du stress, avec tout le cortège des mots et des thérapies qui s'en suivent. Tout cela, selon Jésus, parce que nous cherchons d'abord à la sécurité matérielle, ce qui pousse à l'inquiétude. Alors ce matin, Jésus nous invite à voir notre regard sur le monde. Et on va creuser les raisons que Jésus donne dans ce serment sur la montagne à ne pas adopter cette vision purement matérialiste de la vie. Je l'ai formulé comme ça ce matin pour suivre. On va se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui est mieux, amasser un trésor périssable ou amasser un trésor permanent? Ensuite, qu'est-ce qui est mieux, avoir une vision claire ou une vision trouble? Ensuite, qu'est-ce qui est mieux, servir un maître cruel ou un maître bienfaiteur? Et enfin, qu'est-ce qui est mieux, vivre dans l'inquiétude ou vivre dans la confiance? Et si on entre dans la vision de Jésus, avec son regard sur le monde, vous allez voir que c'est bien mieux. Tout d'abord, qu'est-ce qui est mieux, amasser un trésor périssable ou amasser un trésor permanent? Jésus commence avec une réflexion très simple dans les premiers versets 19 et 20. Faut-il investir dans les choses qui vont être détruites, volées, ou faut-il investir dans des choses qui ne vont pas être détruites? Ça, tout le monde le sait. Il vaut mieux investir dans des choses qui prennent de la valeur dans le temps que des choses qui perdent leur valeur. Et il y a des choses qu'il nous faut pour le quotidien, mais lorsque nous amassons des trésors, lorsque nous investissons, nous regardons souvent sur si la chose prend de la valeur avec le temps. Et Jésus va appliquer cette vérité à l'éternité, le ciel. Et nous rappeler que tout ce monde matériel, on le sait, n'est pas permanent. Quelle que soit la matière, il y a quelque chose pour la détruire. Il y a la rouille, il y a la moisissure, il y a les mites. Et en ce qui concerne les bijoux, il y a des voleurs qui se font un plaisir de s'en occuper aussi. Donc, quelle que soit la matière, il y a toujours quelque chose pour la détruire. Et attention, même ceux qui ont compris que les choses sont périssables ont tendance parfois à échanger un trésor périssable pour un autre, au lieu d'investir de manière permanente. Par exemple, notre époque s'éveille à l'idée que la consommation effrénée n'est probablement pas une bonne idée. Alors on dit oui, fini la consommation, fini les sacs plastiques, maintenant l'écologie. Mais si on oublie le Créateur et le ciel dans tout cela, c'est juste échanger un matérialisme pour un autre. Autrement dit, ni Amazon, ni l'Amazonie sont éternels et peuvent vous sauver. Alors, comment amasser les trésors dans le ciel? Eh bien, plus globalement, généralement, amasser les trésors dans le ciel, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Cette phrase est synonyme, je pense, de sa conclusion à cette partie où il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça, amasser un trésor dans le ciel, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, vivre pour sa gloire, mettre en pratique tous les principes du serment sur la montagne et toute la parole de Jésus. Investir, mettre une priorité sur les choses de Dieu, l'éternité qui nous attend. Plus concrètement, une manière aussi d'amasser un trésor dans le ciel, c'est d'utiliser nos richesses matérielles pour l'avancement du royaume de Dieu. Attention toutefois, à l'abus de cet enseignement, on ne s'achète pas une place au ciel avec de l'argent. Et il y a eu des prédicateurs, des églises, des religions qui peuvent faire des appels aux dons dans le but de s'amasser un trésor sur la terre eux-mêmes. Donc, et c'est un piège. Mais il y a une manière de vivre la générosité, comme nous avons déjà vu, il y a une manière de, comme nous venons de prendre nos offrandes, ces choses traduisent nos biens matériels dans des richesses célestes, lorsqu'elles sont faites avec amour. Or, Jésus nous donne ici un test très utile pour savoir quels sont nos trésors. Où sont nos trésors? Est-ce que vous amassez les trésors et où est-ce que vous les amassez? Il y a une manière de savoir. Il dit en verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le cœur, c'est avec quoi on aime. Ça reflète nos affections. Donc Jésus dit, « Suivez votre cœur pour trouver votre trésor. » Là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Donc, où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Suivez votre cœur pour trouver votre trésor. Quelles sont nos préoccupations? Quelles sont nos passions? Quels sont nos champs d'intérêt? Quels sont nos sites web préférés? Avec quoi remplissons-nous notre temps libre? Qu'est-ce qui réjouit notre cœur le plus? Qu'est-ce qui inquiète notre cœur le plus? Qu'est-ce qui nous met en colère le plus? Toutes ces choses reflètent le cœur. Et le cœur va nous aider à trouver notre trésor. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Amasser un trésor périssable ou amasser un trésor permanent? La réponse est facile, mais le mettre en pratique, c'est autre chose. Donc, on avance. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir une vision claire ou avoir une vision trouble? Dans les versets suivants, versets 22 et 23, Jésus poursuit. Il dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Ces versets semblent un peu hors sujet. Pourquoi Jésus fait de l'autonomie, l'œil, le corps, au milieu d'un commentaire sur les biens matériels, sur l'argent? Mais puisque juste avant et juste après, Jésus parle des richesses, parle des trésors, parle des biens matériels, on peut savoir qu'il ne change pas le sujet, mais c'est encore une manière de nous aider. Alors maintenant, je demande aux adultes de vous pouvez faire autre chose, et les enfants, vous arrêtez votre fiche et vous me regardez. Ici, c'est le moment pour vous. Et j'ai besoin d'un volontaire, un enfant chez les aigles, les hirondelles, par là. Donc si un volontaire est prêt à m'aider, j'ai besoin de toi. J'attends. Qui? Timothée? Oui. Alors, Timothée va nous aider, aucun problème. Ça, c'est mon ami Timothée. Merci, Timothée. Alors, on va faire un petit test de vision, d'accord? Oui. Donc, combien de droits? Deux. D'accord. Juste répète pour que tout le monde entende.
Deux.
Combien de droits?
Deux.
Alors, vous avez bien compris, il voit bien, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dans ma main ici?
Un téléphone.
Un téléphone, ok. Très bien. Maintenant, tu vas m'aider et tu vas mettre ces chouettes lunettes de soleil. Ok. Il a l'air classe? Ouais. Ok, Timothée, combien de doigts?
Je sais pas.
Aïe, aïe, aïe. Là, ça va être la vraie épreuve. Qu'est-ce que je tiens dans ma main?
Ah.
Bon, tu vas leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on ne voit rien. C'est des ténèbres, des lunettes complètement noires. Mais pour avoir bien illustré, tu peux repartir avec ce que tu veux. Merci, un grand merci Timothée. Alors, les enfants, reprenez vos fiches. Les adultes, redonnez-moi votre attention. Jésus utilise cet œil en bon état ou dans les ténèbres pour rappeler que nous avons tous un regard sur le monde, une manière de voir toutes choses. Un œil en bon état, c'est un regard sur le monde qui voit que les choses les plus importantes ne sont pas des choses. Un œil en bon état, c'est un regard qui n'oublie pas Dieu et son royaume dans tout ce que nous faisons. Un œil en bon état, c'est un regard qui voit les besoins des autres, qui essaie d'aider avec des biens matériels ou une présence ou un encouragement, une consolation, un conseil. Un œil en bon état, c'est un regard qui voit les nombreuses grâces et bénédictions quotidiennes pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu, même dans des moments difficiles. Et la reconnaissance fait partie de cette vision claire. Une manque de reconnaissance nous donne une vision trouble sur toute chose. Voilà un œil en bon état, mais il y a aussi l'œil en mauvais état. Ça, c'est l'œil qui ne voit que les biens matériels ou qui vit que pour l'argent. Par exemple, un patron qui pense uniquement à l'argent, c'est peut-être votre patron, eh bien, il sera un mauvais patron à la longue. Si une personne pauvre pense uniquement à gagner le loto, et il va gaspiller beaucoup de son argent là-dedans, voilà, c'est un mauvais œil. Si un jeune ou une jeune pense uniquement à la marque de ses vêtements ou son look sur Instagram, il va mal vivre, il va marcher dans les ténèbres. Et on peut aller plus loin aussi. Il y a plusieurs manières d'être matérialiste. Ce n'est pas que l'amour de l'argent. Si je vois un autre être humain et je ne vois qu'un amas de cellules sans âme, une machine avec une pompe, pourquoi pas ne pas l'avorter, ne pas l'euthanasier, la mépriser, pourquoi ne pas la discriminer, pourquoi ne pas le changer de sexe? Mais si je vois dans mon prochain, mon voisin, un être créé à l'image de Dieu, une âme précieuse, éternelle, en route pour une éternité avec ou sans Dieu, là c'est une autre vision de l'être humain, ce n'est pas une vision purement matérialiste. Et là je vais pouvoir agir autrement et vivre dans la lumière. Donc oui, voulez-vous une vision claire, une vision trouble? En ce temps de Covid, on a besoin d'une vision claire. Je trouve intéressant que plusieurs commencent à se poser la question. Faut-il regarder uniquement la santé physique? Est-ce que c'est la valeur suprême? Bien sûr, ça n'aide pas quand il y a des milliards d'euros en jeu. Mais nous voulons tous avoir une vision claire, une vision trouble. Et c'est la perspective éternelle, la présence de Dieu, son royaume, qui nous donne cette vision claire, un œil en bon état, qui voit les bonnes choses, comme le Nutella ou bien le ciel. Donc encore, maintenant, Jésus va nous aider. Tout ça, c'est tourne autour du même thème, mais c'est des questions qui vont nous aider à vivre autrement, à chercher d'abord le royaume de Dieu, à se méfier de cette vision purement matérialiste. Et maintenant, la question, c'est voulez-vous servir? Qu'est-ce qui est mieux, servir un maître cruel ou servir un maître bienfaiteur? Et Jésus rappelle cette concurrence entre maîtres, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Ce mot mammon, c'est intéressant. C'est un mot hébraïque qui veut dire richesse. Mais justement, Matthieu, qui écrit ici en grec, il le traduit pas en grec. Il le laisse le mot mammon, comme dans ma traduction. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses, peut-être, mais ici, Dieu et mammon. Ce qui nous rappelle que les richesses en soi, ce n'est pas le problème. C'est quand elles deviennent un concurrent de Dieu, c'est quand elles deviennent un Dieu, un maître, une idole qui concurrence Dieu. Et maman aussi, vous le savez, il offre un salut. Maman aussi, il réclame l'amour. Il exige des sacrifices. Et la solution de Jésus, donc, n'est pas de se débarrasser de l'argent, mais c'est détrôner mammon dans nos cœurs, de nos cœurs. Et ce que j'aime bien avec cette illustration de Jésus, les deux maîtres, c'est qu'évidemment, riches et pauvres sont concernés. On peut idolâtrer l'argent, qu'on soit riche ou pauvre. On peut s'inquiéter de l'argent, qu'on soit riche ou pauvre. On peut idolâtrer l'argent, qu'on soit socialiste ou capitaliste. On peut être matérialiste, idolâtrer les choses de la création, qu'on soit écologiste ou manga du pétrole. C'est pour nous tous. Mais j'aimerais, pour nous aider à choisir plutôt un maître bienfaiteur, j'aimerais prendre quelques instants pour comparer ces deux maîtres, Dieu et mammon. Dieu, il veut être notre maître, oui, roi. Mais pour cela, il a payé le prix de notre salut, de notre liberté, ce qu'il a fait une fois pour toutes à la croix en Jésus-Christ. Il donne gratuitement son amour, il le renouvelle chaque jour. Il nous libère du péché. Il ne se lasse pas de nous pardonner, de nous accueillir. En plus, il nous fait aimer les uns les autres. Quelle que soit notre classe sociale, quel que soit notre parcours, il nous met ensemble dans une église pour s'entraider. Certes, Dieu exige notre obéissance, il est le maître, il en est digne. Mais tout cela, c'est pour notre bien, c'est parce que ses lois sont bonnes. Et en plus, il nous donne la force de lui obéir. Il nous donne, comme tout ce serment sur la montagne va rappeler, il nous donne un principe, une force qui agit de l'intérieur, qui transforme le cœur pour marcher dans ses voies. Ça, c'est Dieu le maître. Maintenant, comparant avec Mammon comme maître. Mammon, il n'est jamais satisfait de nos sacrifices. Il faut toujours faire plus pour lui. Il ne s'intéresse nullement à notre bien, à notre santé, à notre bien-être. Il ne s'intéresse pas au bien de nos familles. En plus, il nous met en concurrence les uns avec les autres. Ceux qui ont moins, il faut les mépriser. Ceux qui ont plus, il faut les jalouser. Ce n'est pas une recette pour s'entendre ensemble. Donc le constat, le bilan, c'est Mammon est un maître cruel. Voulez-vous vraiment le servir? Certes, il offre un salut, un pseudo-salut, en disant... En me servant, vous aurez le bonheur, vous aurez l'approbation des autres, vous aurez le confort. Mais c'est séducteur, c'est mensongère, parce que derrière, il y a un esclavage. Mammon est un maître cruel. Voulez-vous vraiment vivre pour lui? Et enfin, Jésus va poursuivre. Qu'est-ce qui est mieux, vivre dans l'inquiétude ou vivre dans la confiance? Après avoir parlé des trésors dans le ciel, de l'œil, et des deux maîtres, Jésus passe un peu à l'application de toute cette partie. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, verset 25, ne vous inquiétez pas. Et il va répéter cette idée plusieurs fois, verset 25, verset 27, verset 28, verset 34. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et comme nous avons dit, finalement, le problème de cette vision du monde qui voit, qui cherche le salut, la sécurité, le bien-être, la réussite que dans des choses matérielles, c'est qu'elle produit constamment l'inquiété et l'anxiété. Parce que oui, si ce monde, c'est tout ce qu'il y a, forcément, si on vous dit 2020, 2021, c'est tout ce qu'il y a, c'est inquiétant. Et puis, par rapport au bien matériel, il y a toujours cette question, est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en aurai demain? Donc vous voyez l'inquiétude qui s'installe quand on a une vision purement matérialiste. Et Jésus va nous donner plusieurs raisons à ne pas vivre dans cette inquiétude liée au bien matériel. Tout d'abord, il dit, verset 25 encore, « Car la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que le vêtement. Je pense que ça veut dire qu'il nous rappelle que le Dieu qui sait créer la vie, il peut aussi la nourrir. Créer la vie, c'est plus compliqué de la nourrir, mais Dieu sait faire la vie plus que la nourriture. Un corps humain est infiniment plus complexe qu'un pull ou un pantalon. Donc si Dieu sait faire ça, s'il sait faire l'ADN de l'être humain, il peut s'occuper de tout le reste. C'est le même argument qu'on va trouver en Romains 8, où Paul dit, si Dieu nous a donné Jésus, s'il n'a pas épargné son fils Jésus, eh bien, il peut nous donner des choses plus petites, des choses plus simples, s'il nous a donné la chose la plus forte, la plus coûteuse. Donc, voilà déjà, raison de ne pas s'inquiéter. Après Jésus, une autre raison de ne pas s'inquiéter, il prend des choses, il dit, regardez les oiseaux et les fleurs. Il prend des choses qui ont pourtant moins de valeur ou moins de pérennité. Et il dit, pourtant, Dieu s'occupe d'eux. C'est beau, verset 26, encore en verset 29, avec les lys. Regardez les oiseaux du ciel, considérez les lys. L'exemple des oiseaux, je trouvais fort. Le Père Céleste les nourrit. Vous n'avez jamais rencontré un oiseau stressé, inquiet. Mais cela ne veut pas dire qu'ils restent toute la journée à ne rien faire. Dans leur nid, la nourriture va tomber du ciel. Le Père Céleste s'occupe. Je n'ai même pas besoin de m'envoler. Non, les oiseaux sont actifs. dans la construction du nid, dans la recherche de la nourriture. C'est juste, c'est sans inquiétude, parce que le Père Céleste prend soin d'eux. Donc là encore, Jésus-Christ, il n'interdit pas le travail, il n'interdit pas l'effort, il n'interdit pas l'occupation. Ce qu'il interdit, c'est l'inquiétude. Regardez les oiseaux, regardez les lys, les fleurs des champs. Et puis, une troisième raison que je vous laisse pour bannir l'inquiétude, c'est qu'elle ne règle rien. L'inquiétude ne règle rien. Il faut se répéter ça, se rappeler ça constamment. L'inquiétude n'aide pas pour gérer la chose, la difficulté en question. Jésus rappelle que l'inquiétude ne rallonge pas la vie. Qui de vous, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Au contraire, l'inquiétude a tendance de baisser la durée de vie si on vit constamment stressé, anxieuse. L'inquiétude ne rallonge pas la vie. Elle est même néfaste pour la santé. Finalement, l'inquiétude ne fait qu'empirer une situation qui est probablement déjà difficile. Puisque Jésus est réaliste et reconnaît, à chaque jour suffit sa peine. Une bonne devise pour ces temps de Covid, à chaque jour suffit sa peine. Par cela, Jésus rappelle qu'il ne faut pas essayer de porter les soucis imaginaires de demain en plus des soucis réels d'aujourd'hui. Il ne faut pas essayer de porter, vous n'avez pas les épaules assez larges pour porter les soucis imaginaires éventuels du demain avec les soucis réels d'aujourd'hui. Donc, arrêtez. Les soucis réels d'aujourd'hui suffisent. Et finalement, si on se limite aux soucis et aux besoins du présent, si on se focalise sur aujourd'hui, en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice, on est obligé de constater que, oui, dans cet instant, là maintenant, aujourd'hui, je suis obligé de reconnaître qui prend soin de moi. Je suis là, je respire, je ne meurs pas de faim, j'ai ce qu'il faut pour glorifier Dieu, pour prendre le pas suivant dans la foi, pour penser à son royaume, pour encourager quelqu'un d'autre. Là, dans cet instant, j'ai ce qu'il faut. Finalement, Dieu a pris soin de moi. Et il l'a fait pour tous ses enfants. Il le fait même pour, au sein de l'épreuve, je pense à l'apôtre Paul, plus tard, qui va dire dans son apostolat, j'ai connu des jeûnes multipliés, des manques de nourriture, manques de vêtements, dans ces emprisonnements, dans ces naufrages. Sur le moment même, oui, il a connu des moments de faim et de nullité, comme il dit. Mais dans ce contexte-là, il dit, mais Dieu était là, sa grâce m'a suffi et il me conduit, il me porte. Et puis, bien sûr, il y a cette manière que Dieu va un jour nous revêtir des vêtements célestes. Un jour, le vêtement et la nourriture ici-bas, de toute manière, font partie de ces trésors qui vont se détruire. La teigne, le rouille, la vieillesse. Mais Dieu a cette manière de nourrir dans le festin éternel, de nous revêtir des habits de justice éternelle. Donc oui, nous pouvons lui faire confiance en tout temps. Donc l'inquiétude, voulez-vous vivre dans l'inquiétude ou voulez-vous vivre dans la confiance ? Vous voyez, tout cela est un appel à la foi dans la parole de Jésus, en Dieu, notre Père. Parce que finalement, nous apprenons ici que l'inquiétude, c'est l'incrédulité. L'inquiétude, c'est l'incrédulité. Jésus le dit aux gens de peu de foi. Aux gens de peu de foi, c'est ça le problème, peu de foi. Oui, nous sommes des gens de peu de foi. Surtout dans ce monde très matérialiste qui nous appelle à suivre, avoir cette vision, ce regard. Nous sommes des gens de peu de foi. Mais malgré cela, nous sommes précieux aux yeux de Dieu parce qu'il a fait de nous ses enfants. Et ça, c'est le thème qui parcourt tout le sermon sur la montagne, un peu la nouveauté du Nouveau Testament, c'est que ce Dieu juste, ce Dieu saint, il est aussi le Père céleste qui aime ses enfants. Et s'il est notre Père céleste, c'est un Père parfait. C'est sûr qu'il ne manquera jamais au devoir d'un Père, devoir de Père de prendre soin de ses enfants. Et Jésus offre cette vie à ses disciples, oui, il y a tout ce principe de la sermon sur la montagne, mais constamment, il parle de ton Père, quand tu pries, prie ton Père. Quand tu fais des choses, c'est pour ton Père. Donc ce ton Père est partout dans la sermon sur la montagne, qui nous rappelle une nouvelle relation possible avec Dieu. Et Jésus finalement est venu ici-bas, non seulement pour nous enseigner, mais par sa mort à la croix, sa résurrection, pour nous donner une place dans la famille de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'il soit notre Père. Si nous sommes convaincus que Dieu est notre Père, non seulement en regardant les oiseaux et les lys, mais en regardant Jésus-Christ, bien là, oui, nous pouvons vivre dans la confiance. Nous n'avons pas besoin de vivre constamment dans l'inquiétude. Et il peut le répéter, il nous répète encore ce matin, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je trouve que c'est un message fort utile pour notre époque, cette crise que nous traversons. Le monde entier semble nous appeler à l'inquiétude, comme c'est la meilleure chose à faire en ce moment. Mais c'est parce que ce monde ne peut que réfléchir ou ne recherche uniquement les choses matérielles. Forcément, si on élimine Dieu de notre regard, de notre vision, tout notre espoir est ici-bas, et là, c'est en effet inquiétant. Donc à nous, chrétiens, constamment de rechecker notre vision, d'enlever ces lunettes aveuglantes qui voient uniquement soi-même ou le monde matériel, et avec le regard de la foi, le regard que Jésus donne ici dans le sermon sur la montagne, de pouvoir voir les trésors célestes, un maître bienfaiteur, une provision fidèle chaque jour. Et si nous méditons ces choses, si notre regard se fixe sur ces choses, où Dieu a prouvé déjà son amour en Jésus-Christ, eh bien vous allez pouvoir marcher, pas dans les ténèbres, mais de manière éclairée à notre époque. Que Dieu nous aide à la faire. Nous allons prier pour terminer.